Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3.
Saison 3 dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence Infabric. Désormais, sur YouTube et SoundCloud, vous aurez les premières minutes de votre émission. Retrouvez l'intégralité de nos épisodes sur Apple Podcasts, Acast, Deezer, Spotify. Bonjour Anita Barthélémy-Pébock, c'est bien comme ça que l'on prononce.
C'est exact.
Et Fabien Barthélémy.
C'est aussi comme ça.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et fondateur en 2016 de l'agence Infabric, donc c'est quand même relativement récent. Une jeune agence franco-autrichienne. Anita, vous avez travaillé pour Jean Nouvel longtemps. Et Fabien, vous avez travaillé chez Schex et Morel longtemps aussi
ou... Oui, un certain nombre d'années aussi, oui.
Ouais. De beaux parcours respectifs, ce qui m'a attirée dans votre profil, c'est l'aspect ingéniosité qui ressort de votre travail et l'activité aussi transfrontalière ou plutôt transnationale, je ne sais pas comment on peut le qualifier.
Transeuropéenne.
Vous venez de gagner avec l'agence Chartier d'Alix un projet de collège à Essen, en Allemagne, dont vous allez nous reparler. Bon, on va commencer par vos parcours respectifs. Quelle a été votre jeunesse pour chacun de vous? Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études? Parce que vous n'avez pas tout à fait la même culture du coup européenne, mais il y a des nuances.
Alors, moi, donc, je suis autrichienne et j'ai grandi dans un petit village dans l'Autriche basse, on dit, pas loin de entre Salzbourg et Vienne, le long du Danube. Et bon, mon enfance, c'était une enfance heureuse à la campagne avec un grand jardin et tout ça. Mais je ne suivais pas tout à fait ce que mes parents ils attendaient de moi parce que ma mère, elle est infirmière. Et mon père, il est serrurier. Et du coup, en fait, il pensait que, bien sûr, que ses enfants ils restent dans le village. Et pour moi, ils ont souhaité que je devienne maîtresse pour les enfants, pour l'école maternelle. Et en Autriche, à l'âge de 10 ans, on commence à aider à la maison, cuisiner et tout ça. Et moi, ce n'était pas mon truc. Je ratais toujours tout ce qui était cuisine. Par contre, tous mes oncles, ils ont construit les maisons avec leurs frères et sœurs. Et du coup, moi, j'étais plutôt avec les garçons sur le chantier et monter le mur. Et à l'âge de 14 ans, ça s'est fait en Autriche quand on fait un test de compétences. Et du coup, ma mère, elle était toujours convaincue que moi, j'avais devenu maîtresse pour les jeunes enfants. Et là, ils ont dit, mais non, pas du tout. Elle n'a pas du tout de don social. Par contre, la vision de 3D et tout ce qui est construction, ça pourrait bien marcher. Et du coup, je suis allée dans une école technique sur la restauration des bâtiments. Et après ça, j'ai enchaîné les études de l'architecture et j'ai fait Erasmus à Marseille. Et c'est là où j'ai rencontré Fabien, le jeune Marseillais. Bon, et du coup, à l'école de Beaux-Arts, à Marseille, on s'est rencontrés.
Bon, parce que vous êtes un duo au travail et un couple dans la vie.
Ouais, c'est ça. Mmh.
Et vous alors, Fabien?
Alors, moi, j'ai grandi en Provence, dans une petite ville qui s'appelle Manosque, au-dessus de Aix-en-Provence, par là-bas. Dans une famille un petit peu différente chez Anita, puisqu'il y avait un peu plus de gens qui avaient fait des études supérieures, on va dire. Donc, c'était à peu près normal de passer le bac et de faire des études à Marseille, où j'ai intégré l'école d'architecture. Et puis assez rapidement, j'étais assez pas mal attiré par les échanges internationaux. Donc j'étais parti faire Erasmus, donc avant de rencontrer Anita à Manchester. Et j'avais aussi fait un stage aux Pays-Bas. Donc il y avait déjà ce milieu un peu international dans lequel on vivait. Après, on recevait aussi des étudiants étrangers, on les accueillait. Enfin, en tant qu'étudiant en architecture ou autre, on était quand même déjà dans un milieu très international, et c'est aussi comme ça qu'on a accueilli l'année où Anita est arrivée et d'autres étudiants de partout, comme ça qu'on s'est connus. Et après une fois les diplômes en poche, on a fait plusieurs échanges entre Marseille et Vienne et Paris. Enfin, on a fait plusieurs fois, on a habité dans ces trois villes-là, on va dire.
D'accord.
Et puis là, depuis quelques années, du coup.
Mais à la base, on voulait aller en Espagne, mais il y avait déjà la crise, la crise. Et du coup, il n'y avait pas de travail en Espagne.
Donc vous êtes rabattu sur Paris?
Ouais.
Alors, justement, comment et quand avez-vous commencé votre activité d'architecte à la sortie de l'école, en fait?
Ouais.
Vous avez postulé dans les agences?
Mais en fait, Fabien, il a fait mon diplôme un peu avant moi et il est parti à Vienne pour me rejoindre. Et du coup, moi, quelques mois après, je suis repartie d'abord en Espagne, mais je n'ai pas trouvé de stage. C'était en 2005. Et du coup, j'ai envoyé plein de CV à Paris. Et je ne voulais pas du tout aller dans une grande agence. Je voulais aller dans une petite agence. Et comme par hasard, je suis arrivée chez Champ Nouvel parce qu'ils étaient en train de faire un concours pour le Sofitel à Vienne.
Oui.
Et le chef d'agence, à l'époque, il était très sympa et il m'a hyper bien vendu l'agence Champ Nouvel, et après je voulais que aller chez Champ Nouvel. Et ce projet-là, c'est le Sofitel de Vienne, et c'était mon premier projet, et je l'ai emmené jusqu'à la
jusqu'au
livraison.
Bout.
Ouais. Ouais. C'était une belle expérience, vraiment.
Et vous, Fabien, comment?
Eh bien, moi, donc après le diplôme, j'ai un petit peu travaillé dans des petites agences à Vienne. Et après, quand donc Anita est partie à Paris, il y a même eu une période où moi j'étais à Vienne, elle était à Paris, donc c'était assez rigolo. On inversait les pays. Et après, quand dans quel sens, dans quel ordre ça s'est passé, exactement.
On voulait partir faire les voyages en Amérique du Sud pendant 3 mois. Et là, Champ Nouvel, il m'appelle et il me dit, mais non, maintenant il faut que tu viennes.
Donc voilà, donc il y avait ce job qui était assez intéressant pour Anita à Paris. Du coup, moi, je me suis mis à chercher du travail en arrivant de Vienne. Et c'est là qu'en fait, j'ai démarché une agence à peu près par hasard qui cherchait un germanophone. Donc, Schex et Morel, parce que Schex et Morel, je ne sais pas si vous les connaissez un petit peu, il y a un des partenaires, voilà, Walter Grassmuck, qui est autrichien, et qui commençait aussi un peu à développer des projets à l'international, en Allemagne, en Autriche. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans cette agence en revenant d'Autriche.
D'accord. Donc, j'imagine que vous êtes trilingue, c'est ça?
De naissance, non.
Oui.
Pas comme nos enfants qui le sont vraiment.
Oui.
Mais on vit avec deux langues, principalement. Oui.
Ouais. Aujourd'hui, vous avez votre agence. Et l'une des questions récurrentes dans Comme d'Archi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sorti de l'école d'archi? C'était d'être indépendant? Vous souvenez de ce que vous souhaitiez? Oui, c'était d'avoir votre propre agence.
Moi, c'était pas mon objectif, moi, de devenir indépendant.
Ouais.
Je pense que j'aurais peut-être pas fait sans Anita ou sans quelqu'un qui a cette force, cette motivation qu'elle a tous les jours pour foncer dans plein de choses. Ouais. Là où moi, je suis un peu plus réticent, prudent.
Vous êtes le sage, alors. Et Anita, vous êtes la fonceuse, c'est ça?
C'est un peu ça.
Oui, mais en fait, en ayant grandi à la campagne, je pense que je suis allée bien beaucoup plus loin que je pensais. Parce qu'à l'âge de 17 ans, je ne savais même pas que ça existe, les études d'architecture. Parce que Fabien, quand je lui raconte mon enfance, il pense toujours que c'est 100 ans plus loin. parce que dans la campagne en Autriche, ça évolue un peu moins vite que vous pouvez imaginer.
Mais en même temps, vous avez, je dirais, été protégé. Et vous avez, au sens littéral et symbolique du terme, vous avez respiré un air pur.
Ouais, c'est peut-être naïveté, pas bien.
Ouais. Ouais, voilà. Enfin, voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais le dire.
Ouais.
Finalement, vous avez grandi tranquille.
Oui, ça c'est sûr.
Voilà. Et ça a certainement aussi éveillé votre curiosité.
Oui, mais après on vit qu'une fois. Et moi je me dis toujours, si je n'essaye pas, je les regrette et je préfère...
D'ailleurs, je reviens un tout petit peu sur vos études. Vous êtes ingénieur aussi, c'est ça?
Bah, en fait, les études à Vienne, elles sont techniques. Donc j'ai fait les études à l'école technique.
Oui.
Mais c'est aussi pour ça que je suis un peu en France, parce que la créativité architecturale en France est bien supérieure comparée avec les pays germanophones.
Ouais. Mais c'est bien comme ça, vous retrouvez l'équilibre entre les deux. Fabien, vous aviez peut-être quelque chose à ajouter sur votre parcours jusqu'à maintenant?
Non, pas en particulier.
Y a pas...
Moi, si, il y a quand même... En fait, donc, je suis arrivée à Paris. Et j'ai travaillé pendant 6 mois en stagiaire, j'avais une bourse chez Jean Nouvel. Et on a gagné les concours et après ils nous ont appelés. Et Fabien, il n'avait pas forcément envie de venir à Paris, vous imaginez, en tant que Marseillais. Donc il est resté au début. Et après quand j'ai eu la proposition, c'était une proposition pour d'abord travailler 1 an et demi à Paris. Et après partir en Autriche pour livrer les projets. Et c'est là où Fabien il est parti avec Walter Grasmuck en Autriche. Ils ont essayé de déjà monter leur boîte. Donc, il a essayé de créer avec un autre ancien de Chexemal, d'ouvrir une antenne.
C'est ça, oui.
Donc, pendant 5 ans, il avait quand même déjà son agence en Autriche. Mmh. Et après, une fois fini le Sofitel, c'était un moment un peu difficile parce qu'on ne savait pas trop si on devrait revenir ou rester... en Autriche, et bon, on a pris la décision de... Parce qu'on s'est dit, si on veut revenir à Paris, c'est maintenant ou jamais, parce que là, on avait toutes les possibilités, on avait tous les deux une proposition de travail.
Et donc, après, qu'est-ce qui a déclenché la création de votre agence? C'est un projet?
Mais ça, c'était toujours... Parce que quand Louis est parti en Autriche, il avait déjà travaillé en tant qu'indépendant, et moi, je lui ai aidé.
Administrativement, on peut dire que ça s'est fait un petit peu en dégradé, puisque moi, à un moment, je m'étais mis en indépendant pour continuer à travailler pour Chexemorel. Et puis, il y a eu un petit creux aussi dans cette agence-là. En même temps, Anita a eu l'occasion...
J'ai démissionné. Non, chez Jean Nouvel, c'est très intéressant de travailler chez Jean Nouvel, mais même lui, il est dit aussi. Il dit qu'il y a un moment où il faut passer à d'autres choses. C'est pour ça que ça s'appelle les ateliers Jean Nouvel, parce que lui, il voit ça comme... Un parcours.
En mouvement. Ouais.
Et bon, là, quand les 10 ans s'approchaient, on s'est dit, si, maintenant ou jamais.
D'accord.
Il y a eu un projet aussi qui est démarré, qui nous a permis aussi vraiment de nous mettre concrètement.
Ouais, en fait, il y a une extension d'une toit à
Vienne,
en Autriche, qu'ils ont fait appel à Jean Nouvel. Et du coup, il m'a dit que tu peux les... réaliser, et c'est là où vraiment on a créé la société.
Oui, parce que vous en occupiez en sous-traitance, en fait.
Voilà.
Ouais. D'accord. Mais pour le coup, vous êtes reparti...
Non, on l'a fait depuis Paris.
Donc
on a loué un petit bureau, on a acheté des ordinateurs.
Comme tout le monde.
On s'est lancé.
Vous êtes lancé. Bon. Alors, est-ce que vous avez une histoire de projet à raconter, ou après ce premier projet de fil en aiguille, comment ça s'est passé?
Beaucoup de coopération dès le début, et même encore plus aujourd'hui, sur des projets très divers et variés.
Il y a le logement en Suisse, qui est le chantier a démarré.
Donc voilà, ça c'est un projet de coopération avec un architecte suisse qui est aussi un ancien de Jean Nouvel.
Ça s'appelle Stéphane Top.
Qui s'est installé en Suisse, avec qui donc, on continue à faire régulièrement des concours, des candidatures. Et là, donc, il y a un projet qui est en train d'être construit dans un petit village en Suisse.
Donc, il y a la grande école, donc on va baler qu'on a fait avec Chartres et Dalix.
C'est plutôt un concours.
Et on travaille aussi avec Chartres et Cabasson, je ne sais pas si
oui,
vous
oui,
connaissez.
Oui, bien sûr, ils sont venus dans Comme d'Archie. Enfin, ouais. Thomas est venu.
D'accord, on a déjà fait plusieurs
projets. Il est un ancien de chez Jean Nouvel.
Oui, mais je ne le connaissais pas, il était avant moi. Ouais. On a déjà fait plusieurs collaborations avec Thomas Cabasson.
Et on peut dire qu'actuellement, on est aussi en train de faire un concours avec eux.
Ouais. En Autriche. En Autriche.
Ouais. D'accord. Bon, super intéressant. Finalement, vous fonctionnez beaucoup sur la logique des réseaux pour former vos équipes.
Mm-hmm. Oui.
Oui,
c'est important. Mm-hmm. Et puis à Paris, c'est vrai que la concurrence est grande. Oui. La France est très centralisée, donc il faut arriver à faire son petit trou. C'est vrai que nous, dès le début, on a donc essayé de jouer cette carte franco-allemand. Donc en fait, on essaie de faire des passerelles dans les deux directions. Donc en fait, on a contacté plusieurs agences françaises pour faire des concours à l'étranger grâce à leurs références que nous, on n'a pas encore. Et dans l'autre sens, on a aussi contacté plusieurs agences en Allemagne, en Autriche, pour faire des candidatures en France.
Ouais.
Donc ça, on essaie de faire la passerelle dans les deux sens, en fait. Mmh. Pour l'instant, on va être plus actifs dans les pays germaniques. En France, donc, on connaît un peu le système, on fait des candidatures. En général, ils retiennent 3 à 5 agences, rémunérées pas trop mal. Et,
on peut y vivre.
Et y a presque des agences qui vivent seulement de concours.
Ouais.
En Allemagne, en Autriche, c'est plus facile de rentrer dans les concours parce qu'ils en sélectionnent parfois 15, 20, 25. Par contre, la rémunération est très limitée, voire quasi nulle si on n'a pas une prime. Donc c'est plus facile de rentrer dans les concours, mais après c'est plus difficile de les gagner, évidemment, parce que statistiquement, il y a moins de chances.
On pourrait dire que ça ouvre plus à la qualité d'architecturale, qui n'est pas frais, parce que comme ils sont plus ingénieurs, et après il y a un système de post-sélection, ça veut dire une fois qu'on a gagné le concours, ce qui s'est passé là pour le projet à Essen, il y a une phase de presque 6 mois où il négocie avec le premier. Après, si le premier est trop cher ou il n'a pas les compétences ni les capacités, il négocie avec le deuxième. Et du coup, c'est un peu lourd finalement.
Oui.
Ouais.
En fait, en France, on gagne. Une fois que c'est gagné, c'est gagné.
En principe.
En principe. Mais après, c'est vrai que la vie d'un projet est longue et beaucoup de vos confrères, et j'imagine que vous pensez la même chose, ça peut, pour aller jusqu'au bout d'un projet, c'est pas si facile que ça, même s'il est gagné.
Exact.
Oui, c'est un long trajet, oui.
Un long trajet, oui.
Ça dépend, mais le temps, ça sera raccourci quand même. Aujourd'hui, en un an, on peut construire 28 logements comme on va les faire en Suisse. Et je pense qu'il y a 5 ans, c'est encore plus long.
Oui. Et dans justement ces différences d'approche entre l'Autriche, l'Allemagne et la France, finalement, vous trouvez que les projets sont plus fluides en Autriche et en Allemagne ou en France? Est-ce qu'il y a des points de blocage ou des...
A priori, notre expérience nous a montré qu'en Allemagne, il y a quand même les choses se passent d'une manière quand même assez clean.
C'est-à-dire
que même tout ce qui est candidature, il y a un système de points, c'est-à-dire qu'on nous classifie, on nous donne des points, donc vous êtes pris, vous n'êtes pas pris. Alors qu'en France, ce que j'ai vécu, c'est on regarde un petit peu comme ça, je le connais, je ne le connais pas, il passe pas,
ouais.
C'est pas très transparent. En Allemagne, même plus qu'en Autriche, il y a vraiment un système qui est très clair, on est dans les clous, on n'est pas dans les clous, on passe, on passe pas, et si on est à égalité, il y a un tirage au sort même pour les candidatures.
D'accord.
Et donc pour le concours ASN avec Chartier d'Alix, on a été retenu, on connaissait personne, on avait les références qu'il fallait, on est passé par le tirage au sort, mais on ne sait pas exactement les détails. Et après, l'anonymat, a priori, il a été respecté jusqu'au bout. Et c'est vraiment le jour où ils ont ouvert l'enveloppe, ils ont dit « Ah bah tiens, une agence française ». Ils ont dit « Super ». Après, je ne sais pas s'ils l'ont pensé, mais ils l'ont dit. Les deuxièmes, c'était des Autrichiens. Et puis, de toute façon, à Essen, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs agences internationales qui ont déjà construit, comme Sana, comme Schipperfield.
Colas.
Aussi, Schexmorel, justement, sur un projet sur lequel j'avais travaillé. Colas, donc un Hollandais. Donc l'Allemagne, a priori, les choses sont clean et claires.
D'accord. Et votre projet de Essen, c'est... vous avez vraiment travaillé en conception avec Chartier d'Alix. Oui.
Mais c'est quand même eux les mandataires. Ça.
Oui.
En parce fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a donc pas mal de coopérations avec des agences. Certaines qu'on connaissait déjà, d'autres qu'on a un petit peu contactées un peu par hasard. Et en fonction des sujets, des candidatures qu'on voit dans les pays germaniques, on va chercher tel ou tel partenaire. Et avec justement Thomas Corbasson et Karine Chartier, ça avait commencé avec une candidature sur un restaurant, centre événementiel en Autriche. La candidature avait l'air très intéressante. Et on cherchait quelqu'un qui avait des références. Et en fait, c'était juste en cherchant sur Internet qu'on était tombé sur leur façade verte de projet Amiens et qu'on les avait contactés. Ouais. Et pour le projet ASN, on voyait qu'il y avait régulièrement des candidatures pour des établissements scolaires en Allemagne. On s'était dit qu'il faudrait qu'on ait une agence partenaire qui a des bonnes références en scolaire. Et c'était comme ça qu'on était allé voir, donc, de manière spontanée, on va dire, l'agence Chartier d'Alix. On a donc postulé pour la candidature. On a été sélectionné pour la première candidature qu'on a faite avec eux. Et donc, on a fait la conception. Donc,
Vous avez réussi à aller jusqu'au bout.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Bah, aujourd'hui, en fait, on a donné les dernières offres. Et c'est pas encore décidé parce que comme c'est un grand projet, un budget assez important, comme vous pouvez imaginer, c'est le responsable de la ville de Essen. Parce que comme c'est payé avec les impôts des habitants,
oui.
Donc normalement, ils devront le décider fin janvier pour que le projet commence à démarrer en février.
D'accord. Et le suivi de chantier, c'est normalement, c'est vous qui vous en occupez ?
En France, c'est peut-être un peu plus normal, mais en Allemagne, pas, parce que ça veut dire que même la personne qui cherche le chantier, tous les ouvriers sur le chantier doivent venir du cabinet d'architecture. Et du coup, on a contacté un architecte local de Aachen, qui s'appelle Hülle et Partner, qui va faire le suivi chantier. Et nous, on va faire que le suivi architectural.
Oui, d'accord. Alors, quels seraient ou sont vos projets emblématiques ? Est-ce que vous pouvez justifier ce choix ? Alors, bien sûr, vous êtes une très jeune agence, mais on voit que vous avez quand même une belle expérience.
Ben, on mise quand même beaucoup sur l'esthétique. Mais ce n'est pas pour ça autant que le facteur social n'est pas important pour nous. Donc, on ne souhaite pas de construire que des choses pour les riches qui peuvent tout se payer. Et c'est aussi pour ça qu'on a un peu réfléchi dans quel sens on voudrait aller. Parce que dans nos expériences réciproques, Fabien, il a fait beaucoup de bureaux, il a développé avec Cheikh Suleiman le siège social à Essen, de Thyssen. Moi, j'ai fait beaucoup de hôtels. Vous voyez bien que Jean Noël, c'est une autre dimension de projet. Et c'est aussi pour ça qu'on a un peu commencé plus à regarder des écoles ou des logements sociaux et tout ça. Et donc, pour le logement, on est en train de construire le logement en Suisse. C'est une construction en bois complètement écologique. Donc, c'est un aspect qui est très important. Donc, c'est dans un petit village et c'est vraiment des logements qu'ils doivent créer là-bas parce qu'il n'y a presque que des anciennes maisons qui ne sont pas bien étanchées et que les personnes vieillissent. Et ils vieillissent dans des conditions pas possibles. Ils n'ont pas le confort. Quand tu es jeune, tu peux chauffer avec le bois.
Oui. Avec la cheminée.
Tous les jours, mais quand tu as 80 ans, tu as envie d'allumer, appuyer sur le bouton et avoir un chauffage. Donc, le côté social et écologique reste quand même très important et devient plus en plus important. C'est pour ça, si vous regardez, on a quand même aussi beaucoup de projets d'extension, rénovation et tout ça, parce que moi, je pense que construire en soi, ça devient moins en moins. Et je pense que dès qu'on peut le rénover ou garder la substance, c'est très important. Et d'ailleurs, pour les projets des SN, qu'on va expliquer un peu plus, la première chose, parce que c'est une reconstruction, la première question qu'on s'est posée, mais pourquoi on ne peut pas laisser l'école et rénover, mais il est dans un état pas possible, on voit déjà les ferrailles et tout. Et du coup, pour les écoles, ce qui nous importe, c'est qu'on aimerait plus emmener En France, il y a une grande différence de construction des écoles entre les pays germanophones et les pays français. Et dans notre avenir, c'est ça que je voudrais embémiser et plus faire la publicité vers la France. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a encore les élèves qui sont assis en rang, et devant, il y a la maîtresse, et les classes, ils sont assez petits. Et dans les pays germanophones, il y a des classes, ça s'appelle des clusters, ou des villages, ça dépend de quel pays. Et en fait, une classe se partage toujours avec une autre classe, une classe entre les deux, où ils peuvent faire des activités, ça veut dire en soi. Ils ont chaque fois un espace d'extension, par exemple, s'ils font des dessins ou tout ça. Et tout ça, ça se regroupe, ça dépend des écoles, mais en général, il y a 4 classes qui sont regroupées dans un petit village. Et au milieu, il y a la place, comme ils le nomment, avec un espace extérieur. Et là, il y a des bibliothèques et des trucs. Donc, et du coup, c'est tout beaucoup plus libre. Et les élèves, ils peuvent se balader dans cette village, on va dire, pendant les heures et tout librement. Et du coup, on a appris depuis longtemps que les enfants assis, ils s'apprennent pas très bien. Et il y a une liberté dans les mouvements, mais aussi dans les choix, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre et tout ça. Donc, il y a le modèle à Munich qui était déjà créé dans les années 70. Et je comprends pas trop pourquoi la France, elle est pas un peu plus loin sur ça. Ouais.
Et vous êtes combien à l'agence aujourd'hui?
On a une comptable qui fait aussi les candidatures, c'est Cécilia. Après, on a une graphiste. Et là, le projet de Essen, il démarre maintenant, là, en janvier-février. Et là, on va devoir avoir 4-5 personnes en plus. Donc, actuellement, on a 2 stagiaires. Et là, on va encore devoir embaucher 2 personnes et... un ou 2 mois plus tard encore 2 personnes. D'accord. Donc là, on a un ancien stagiaire qui finit son diplôme, qui va revenir, et une fille qui est germanophone, et on cherche encore 2 personnes.
Bon, bah peut-être que le podcast va vous amener des candidatures avant que vous ayez passé votre annonce.
En ces cas-là, ils doivent parler allemand pour un point.
Bon, oui, ça c'est évidemment.
Parce qu'on a beaucoup de projets germanophones.
Mais en général, on a quand même des équipes plutôt internationales.
Ouais. Ça, c'est après, tu peux aussi dire comment nous on fonctionne, parce qu'on est quand même très différents et du coup, on se complémente.
Vous êtes très complémentaires.
Très complémentaires, oui.
On est différents, tout le monde est différent, bien évidemment, et du coup, c'est nécessaire de jouer sur les complémentarités pour développer le travail. Donc, ça passe aussi de temps en temps par des accroches quand on n'est pas d'accord, mais d'une manière générale, en termes de développement de projet architectural, pour moi, c'est toujours un résultat qui gagne quand on confronte des idées différentes et qu'on essaie de tirer le meilleur de chacun. Et c'est aussi ce qu'on essaie de faire quand on fait des partenariats avec d'autres agences, c'est de vraiment essayer de prendre ce que chacun a de meilleur et de le mettre dans la casserole et de garder que le meilleur. Quand quelqu'un arrive avec quelque chose qui a une certaine évidence, je pense que c'est la force de mettre tout le monde d'accord. Et c'est là qu'on sait que c'est un projet qui est gagnant ou qui est intéressant.
Et c'est ce qu'un client il nous a dit récemment avant Noël. Il a dit qu'on voit que vous avez vraiment une vision, que vous nous présentez une vision. C'est ça qui est aussi important.
Ouais, on voit que vous avez mené quand même des sacrés projets. Quand on voit les images de vos projets, il y a toujours un esprit, on sent qu'il y a une belle maîtrise et une très belle esthétique. Donc, vous associez avec des designers à Vienne, je crois.
Oui, c'est ça, oui.
Ils s'appellent Lucidi, donc eux, ils ont fait dans le musée Max.
Au musée d'art appliqué.
Musée d'art appliqué, il y a aussi une école d'architecture et design. C'est là où Saadit elle a enseigné. Et en fait, on l'a connu à travers des architectes. Et ça s'est développé pendant le confinement, en fait, ça a commencé. On n'avait rien. On ne savait pas comment faire. Et du coup, on avait contact avec eux. Et on a dit, bon, on va commencer à essayer de développer quelques projets ensemble. Et du coup, on a fait une
Donc c'était un petit concours pour un outdoor bar sur un toit d'un hôtel à Vienne, financé par Veuve Clicquot. Donc c'était un petit concours de design ouvert, que essentiellement donc, Karine Santorso et Anita ont fait ensemble, à distance, et qui a été gagné. Donc maintenant il est construit depuis quelques mois. Et ça a un petit peu lancé une coopération avec ces deux filles, donc Karine et Barbara. Et depuis, on a fait d'autres concours un petit peu plus
grands,
donc qui dépassaient le design. Et aussi, même ce que j'ai oublié de dire, c'est des petites commandes de bars mobiles à la suite de ce bar-là qui a été gagné.
De Veuve Clicquot.
De bar Veuve Clicquot.
Du groupe.
Donc, il y a un petit peu des retombées. Maintenant, on a aussi un restaurant, une commande pour une rénovation d'un restaurant à Vienne, qu'on fera ensemble. Et donc là, récemment aussi, on a donc répondu à un concours pour un ensemble de logements, une rénovation de cinéma dans la campagne en Autriche, près de Steyr, pour lequel on attend le résultat au mois de janvier, et qu'on espère avoir gagné.
Ouais.
Je vois une référence en Chine.
Oui, donc à Beaujolais-Nouvel, en sous-traitance, Beaujolais-Nouvel, il a développé à Qingdao, qui est l'ancienne la ville allemande en Chine. Il y a même la pierre à Qingdao. Et il a créé un grand jardin des artistes. Et c'est un site immense. En fait, c'est en face de la ville et c'est un ancien village de pêcheurs. Et là, il y a un client privé qui est venu le voir pour construire un hôtel, un musée, des ateliers d'artistes. Et du coup, il faisait appel à nous, surtout pour aussi l'aménagement intérieur et pour développer le projet avec lui.
D'accord. Comment vous imaginez le monde de demain, vous qui êtes de jeunes parents?
Le monde de demain.
Je crois qu'on est dans un monde un peu transitoire.
Ouais.
Et en tant qu'architecte, vous avez pas mal de défis à relever.
Bah, en fait, ça change. On ne peut pas dire aujourd'hui on l'imagine comme ça et demain on imagine autre. Ça dépend.
Mais l'architecte vit toujours par anticipation dans le temps du projet.
Oui, mais c'est par anticipation à court terme. Là, vous nous demandez vraiment à long terme. Mais pour répondre court, moi j'espère qu'il n'est pas comme j'ai peur d'y être dans le futur.
Ouais.
Je ne sais pas si...
On n'est pas sûr de ce qui...
Ouais. Je ne sais pas dans quel monde nous emmenons nos enfants.
Ouais.
Honnêtement, je ne sais pas.
Ouais.
Après, on ne peut pas dire que c'est la faute de chaque individu, mais c'est quand même nous tous qui avons fait des décisions et des choix. Et comme tous les jeunes le disent, il faudrait, et comme j'ai déjà dit, il ne faudrait pas construire aujourd'hui, il faudrait rénover.
Oui. C'est ce qu'on dit beaucoup actuellement.
Ouais. Il faudrait vraiment arrêter de continuer à courir dans un sens où on sait déjà depuis 20 ans que ce n'est pas le bon sens.
Oui, ça va venir. Ça va venir.
Étonnamment, c'est surtout des pays qui ont beaucoup de nature, comme l'Autriche et la Suisse, qui produisent encore beaucoup de rues et de routes et qui sont très mauvaises sur cette
question.
Ouais.
Ouais. Déjà, entretenons ce qu'on a. Et, ouais. Mais pour, en fait, d'avoir ce discours, ça coupe un petit peu le rêve de l'architecte, non?
Non.
Non.
Au contraire, non, ça je ne pense pas du tout, parce que je pense que ça nous emmène à trouver d'autres solutions, réagir autrement.
Oui. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui?
Ben, je pense que c'est quand même bien. Moi, je ne regrette pas, et toi non plus.
D'avoir choisi ces études, non?
Non.
Après, ce qui est peut-être effectivement important, c'est de plutôt possible faire déjà des stages en agence. Parce que souvent, c'est vrai qu'on débarque comme ça, on ne sait pas encore trop ce que ça veut dire. Enfin, moi, si je me rappelle mes premières années à l'école d'archi, j'avais aucune idée de comment ça se passait. Et bon, finalement, je pense que j'ai fait le bon choix, personnellement. Mais ce n'est pas forcément évident, c'est des études longues et on ne sait pas trop où on va.
Je crois qu'aujourd'hui, ils sont quand même bien cadrés. Enfin, d'après ce que j'ai compris.
Mais en termes de stage, je ne sais pas justement. J'ai l'impression
oui. moins de stages.
Il y avait de moins en moins de stages.
Ah, d'accord.
En fait, oui, on a un petit peu du mal souvent à trouver des stagiaires, et surtout des stagiaires français, parce qu'ils ont un créneau que sur l'été ou quelque chose comme ça, là où nous, on n'est pas forcément là non plus. Ah, des oui. périodes qui sont peut-être aussi des fois trop courtes pour que ce soit intéressant aussi de prendre un stagiaire, pour qu'ils soient un petit peu formés et puissent faire un petit peu des choses.
Et du coup, les stagiaires, en général, c'est des germanophones.
Voilà, donc en fait, souvent, nous, on cherche, parce que ça nous intéresse aussi, nous, plus, d'avoir des germanophones. Et souvent, eux, ils se prennent aussi 6 mois, c'est dans le cadre des bourses Erasmus ou des choses comme ça, qu'eux, ils peuvent faire un déplacement à l'étranger pour faire un stage.
Mmh. Bah, pour les conseils aux étudiants, profitez bien de vos études et de, encore profitez de ce temps. Et après, le spectrum en architecture, il est très très large. Il y a plein de métiers qu'on peut faire avec ces études. C'est pas comme nous, ils sont pas obligés de faire le chemin oui. classique. Il y a plein de chemins
oui, il y a
différents.
Les maquettistes, les perspectivistes, la communication.
Etc. Dans la finance, dans l'immobilier.
Et puis aujourd'hui, ils ont aussi des doubles. Des parcours qui regroupent plusieurs disciplines, et je pense justement l'architecture et le territoire, l'urbanisme ou l'architecture paysage. Il y a de plus en plus de ponts qui sont faits entre ces disciplines. Donc, qu'est-ce que ça fait de passer d'agence où vous travailliez dans la notoriété de l'agence avec des très gros projets, et de aujourd'hui, finalement, ça s'est fait progressivement parce que vous étiez sous-traitant de ces agences? Ou est-ce que de temps en temps, vous vous dites bah, c'était plus confortable? Ou est-ce que vous êtes vraiment, vous allez de l'avant sur vos projets et...
C'est sûr que est-ce que c'était plus confortable? C'est une question qu'on se pose souvent.
Ouais.
Et c'est presque plus seulement une question financière quand il y a des hauts et des bas, plus, ouais. plus qu'en termes de manière de travailler, parce qu'être indépendant, et avoir géré ses projets à sa manière, c'est quand même un luxe, je dirais presque. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'était l'enfer non plus dans les agences où on a travaillé. Moi, j'ai passé de très bonnes années, évidemment.
Ouais.
Mais il y a une liberté personnelle. Et,
oui, vous pouvez et exprimer projets. Votre architecture.
Voilà, si tant est qu'on a des choses à exprimer.
Il faut trouver les bons maîtres d'ouvrage, c'est ça?
Oui,
également.
Ouais.
Je voulais ajouter que je suis aussi content pour nous deux d'être passés aussi par des agences, on va dire, de certaines tailles et de certaines qualités, parce que ça permet aussi d'avoir une vision de l'architecture très, très globale et de vraiment se concentrer sur une idée principale et d'essayer vraiment de garder une ligne directrice sur un projet.
Penser le projet dans sa globalité.
Vraiment, voilà, avoir une vision vraiment globale et sans se perdre tout de suite dans les petits détails.
C'est vrai qu'il y a 20-30 ans, on parlait beaucoup d'espace en architecture. Est-ce que vous, le fait d'avoir été confronté à la discipline dans ces grosses agences, justement, ça vous conforte dans cette approche de l'architecture et l'approche spatiale
Il y a, en fait, les études d'urbanisme en Autriche. Ça n'existe pas comme ça. C'est tout de suite du territoire. Ça veut dire que j'ai un grand terrain vide et j'ai fait des... Et du coup, en fait, l'avantage de... Et ça se voit dans les projets architecturaux qui sont faits dans les pays germanophones par des agences françaises, c'est qu'il y a une approche urbanistiquement différente. Et les Français, ils pensent beaucoup plus comment s'intégrer. Et c'est aussi ça qui nous a fait gagner le concours à Essen. Parce que en fait, il y avait des études de faisabilité. Ils avaient une étude comment positionner les bâtiments qu'ils préféraient. Et nous, on était le seul avec Chartier d'Alix de pas répondre à cette demande comment positionner les gymnases et les écoles. Nous, on a dit bon, on va pas faire comme ils pensent, on fait autrement. Et du coup, on a positionné les bâtiments en créant un cours avec l'architecture. Et du coup, la cour de l'école, elle n'est pas clôturée classiquement, elle est clôturée par l'architecture. En plus, on a mis une école élémentaire qui est existante et qui restera dans cette cour. Et c'est ça qui nous a fait gagner. Donc rien qu'urbanistiquement, la réponse, comment on positionne les bâtiments, nous a fait gagner. Et quand nous, on développe ensemble, c'est toujours Fabien qui mise sur cette réflexion urbanistiquement. Et après, moi, je suis plus dans l'esthétique, on va dire.
Mais effectivement, moi,
je pense à la France.
Voilà, c'est une approche française qu'on a constatée déjà, donc, effectivement, avec Walter Grassmuth, quand on a commencé à développer des projets en Autriche. C'est cette approche urbaine. Alors, Lillo à la barre, la barre à Lillo, on se retrouve tout à fait là-dedans, dans ces théories, parce que c'est effectivement la France, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, avec toutes les démolitions et les reconstructions, on a vu plus rapidement, peut-être que les pays autrichiens et allemands, que construire des grandes barres et des tours, ça ne se fait plus, et qu'il faut passer à autre chose, et vraiment recomposer les tissus urbains, et réfléchir vraiment à l'échelle urbaine. Voilà, pour compléter ce que vient de dire Anita. Mmh.
Est-ce que vous voulez, pour la fin, passer un message particulier ?
Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe environnemental, le choix des études d'architecture, c'est peut-être pas du tout écologique. Mais je pense qu'avec les nouveaux matériaux et avec des réflexions, même en tant qu'archi, on peut devenir écologique et rénover des bâtiments et refaire vivre des choses différemment.
Oui. Vos enfants, ils souhaitent être architectes ?
Non.
Ils feront ce que on espère qu'ils feront quelque chose qui leur plaira, surtout même si c'est de l'architecture.
Non, mais dès qu'on dit un concours d'architecture, non, pas en quoi vous allez encore travailler toutes les nuits.
Ouais. Bon. Bah écoutez, on vous souhaite longue route et de très beaux projets.
Merci.
Voilà, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de créativité et une belle approche de la matière.
Merci.
Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas l'épisode en anglais. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.